9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Demain, les dernières heures de l'État islamique. Les forces kurdes ont lancé l'assaut contre les djihadistes retranchés dans des tunnels au milieu d'un champ de mines à l'est de la Syrie. Dernière bataille cruciale. Mais la fin du califat ne veut pas dire la mort de Daesh. Avec nous dans un instant, le journaliste de France 24, spécialiste des mouvements djihadistes, Wassim Nasr. La Syrie encore, avec l'histoire d'une jeune Française partie à Raqqa avec son enfant de 5 ans, rapatriée, exfiltrée, avec l'aide d'un médecin belge et de son fils humanitaire hors des circuits officiels. Une histoire vraie, portée au cinéma, le film en salle mercredi prochain s'appelle « Exfiltré ». Le médecin est incarné par Charles Berling, il sera notre invité. En France, les Gilets jaunes réclament la démocratie directe. En Algérie, la jeunesse demande la démocratie tout court. Les libertés politiques ne sont jamais acquises et le libéralisme économique est en train de les grignoter, voire de les remettre en cause. La fin des libertés, c'est le nouveau livre de la philosophe Monique Cantos-Sperber qui sera avec nous. Et puis au générique également, un explorateur urbain, un aventurier des lieux abandonnés, Timothy Hanem, découverte et expérience fascinante présentée dans un nouveau livre, Urbex.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
À son apogée, l'État islamique contrôlait un territoire grand comme trois fois la Belgique. À l'heure où nous parlons, cela se résume à quelques pâtés de maisons accolées à un campement. Nous sommes à l'est de la Syrie, tout près de la frontière irakienne. Les forces démocratiques syriennes où dominent les combattants kurdes ont annoncé il y a trois jours avoir lancé l'assaut final contre ce réduit où les derniers djihadistes continuent de livrer bataille. Bonjour Wassim Nasr.
Bonjour.
Journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Vous avez publié il y a trois ans « État islamique, le fait accompli chez Plon ». On parle là d'une offensive lancée en septembre. Pourquoi une si longue bataille ?
Parce que les djihadistes étaient bien installés, j'ai envie de dire, dans cette région. Et ce qui n'a pas été pris en compte, c'est tout ce qui a été fait par eux au niveau de l'administration de cette zone-là. Donc ils étaient bien enracinés. Il faut rappeler aussi que l'État islamique n'est pas né en 2014. L'État islamique est né en 2006. En Irak, c'était une alliance de tribus sunnites avec Al-Qaïda, bien sûr, qui a donné naissance à cet État islamique qui, à l'aune de la guerre en Syrie, s'est exporté vers la Syrie et a fait une sorte d'appel à des djihadistes de par le monde, dont beaucoup d'Occidentaux qui ont décidé de le rejoindre. Et les batailles, vous faites très bien de le signaler, qui sont très longues. Hein. On parle de Mossoul, c'était 9 mois de combat. Mmh. C'est plus long que Stalingrad. Hein. Raqqa, c'est 8 mois. Sirte, en Libye, c'est 8 mois. Donc c'est très long parce que ces gens-là ont réussi à construire une sorte de toile de soutien local qui fait ses preuves encore aujourd'hui.
Hein. Et on a aussi des combattants qui n'ont plus rien à perdre. On dit que certains sont armés de ceintures explosives.
Beaucoup sont armés de ceintures explosives. Ça fait partie du folklore, hein, j'ai envie de dire, djihadiste, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Là, on a vu des vagues de familles, donc d'étrangers, donc ni syriens, ni irakiens, se rendre aux forces kurdes, mais aussi, ça il faut le mesurer dans le sens où c'est très dur pour eux de se fondre dans le tissu local. Hein, quand on dit étrangers, on dit occidentaux, asiatiques et africains. Et donc en ce qui concerne les Syriens et les Irakiens, beaucoup se sont rendus et beaucoup ont réussi à être libérés par les Kurdes, moyennant parfois la corruption, moyennant ce qu'on appelle un garant sunnite dans ces régions-là, et ils réussissent à rejoindre leur ville et leur village. Là, on parle des Syriens et des Irakiens. Donc la situation est très complexe. Il ne faut pas se focaliser sur ce qui se passe qu'avec les Occidentaux.
Et sur ce réduit, il n'y a pas que des combattants, il y a encore des civils. Je rappelle que les FDS, les forces à l'offensive, avaient suspendu leurs opérations pendant 2 semaines pour permettre l'évacuation des civils. Quand on parle de civils, il s'agit surtout de femmes et d'enfants.
Oui, il s'agit de femmes et d'enfants, les familles en fait des djihadistes, hein, qui ont décidé de rester jusqu'au bout pour multiples raisons. Et il faut rappeler aussi ce qu'on oublie, c'est que les djihadistes détenaient en tout cas beaucoup de prisonniers. Donc des membres arabes et kurdes de ces forces démocratiques syriennes. Et ça aussi, ça a ralenti les opérations. Et il y a 48 heures, il y a eu beaucoup de libération de ces combattants-là, moyennant quelque chose avec les FDS. Mais là, le fait que l'opération soit lancée, comme vous l'avez rappelé, ça dit une de deux choses. Ou bien ils n'ont plus de prisonniers, donc d'otages, entre leurs mains, ou bien le sort de ces otages a été scellé au profit de l'opération militaire.
Il y a donc ce réduit avec ces combattants qui restent des djihadistes. 5000 ont été arrêtés, mais on dit que les autres se sont dispersés. Ils sont allés où dans le désert syrien? Je rappelle que des attentats sont menés encore en Syrie et en Irak.
Tout à fait, tout à fait. Hier, il y a eu une attaque contre ce qu'on appelle le bureau de plainte militaire des FDS dans un village à côté de Raqqa. Il y a eu plusieurs représentants des clans sunnites, donc arabes, qui aident les Kurdes, qui ont été tués. Et il y a des attentats d'une manière journalière dans toutes les zones d'où l'État islamique a été évacué. Là, on parle de tout l'Est syrien, on parle de Manbij, où il y a des militaires américains qui ont été tués, mais pas que, aussi des Britanniques. Et on parle d'une bonne partie des provinces irakiennes, d'où ils ont été évincés il y a plusieurs années. Hier, il y a eu une attaque à Kayara, au sud de Mossoul, où encore une fois, des représentants de l'État irakien ont été tués.
Donc, il n'y a plus de territoire, mais combattants dispersés un peu partout et qui sont encore en capacité opérationnelle de
tout
mener
à fait
des,
parce qu'ils sont revenus à la clandestinité comme il l'était il y a encore quelques années.
Le leader de Daesh, al-Baghdadi, le chef du califat, on sait où il se trouve.
A priori, il serait en Irak, donc dans le désert d'Anbar. Il n'est pas du tout en Syrie. Et il faut rappeler que Baghdadi, qui est à la tête de l'État islamique depuis 2010, c'est un homme qui est rompu à la clandestinité depuis 2010. Donc il fait un audio par an. Il a fait une apparition vidéo en 2014, une semaine après la déclaration du califat. Et sinon, c'est un homme qui vit dans la clandestinité depuis plus d'une décennie.
La fin territoriale donc du califat, mais sans doute pas la mort de l'organisation État islamique. On marque une courte pause et on en reparle avec vous dans un instant. Wassim Nasr.
Le dimanche jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain et c'est avec vous, Patrick Cohen.
Avec le journaliste de France 24, Wassim Nasr, à propos du dernier acte de guerre contre le califat djihadiste proclamé en 2014, califat qui va donc cesser d'exister. Le drapeau noir de l'État islamique ne flottera plus nulle part, mais à votre avis, l'organisation clandestine va demeurer?
Oui, évidemment, parce que l'idéologie est toujours vivante et parce que les conditions objectives qui ont mené à la montée en puissance donc de l'État islamique tel qu'on l'a connu en 2013, 2014, 2015 sont toujours là, elles sont aggravées. Quand on voit les millions de gens dans le désert, dans les camps, quand on voit les villes complètement détruites depuis la frontière iranienne jusqu'à la frontière libanaise, on peut imaginer que dès que la pression militaire occidentale, j'insiste là-dessus, va baisser, on peut témoigner d'un retour de cet état islamique. Regardez les talibans en Afghanistan. Aujourd'hui, les Américains négocient leur sortie après 17 ans de guerre. Les talibans sont plus puissants que jamais. Mais pour revenir sur l'État islamique, il faut juste se rappeler qu'on est parti d'un groupuscule, comme on l'a dit, dans le désert d'Anbar en 2006, avec quelques centaines d'hommes. Aujourd'hui, on est avec des milliers de combattants de par la planète.
Mais vous dites, l'idéologie va rester, mais ça ne suffit pas, l'idéologie. Quel est le ressort, quel est l'attrait, le prestige? Il est quoi? Militaire, idéologique,
en tout cas,
religieux?
La perte du territoire syro-irakien, donc ce territoire qui est cité dans l'eschatologie islamique, bien sûr que c'est un coup pour la appel de recrues occidentaux et de par le monde vers la Syrie et l'Irak. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont réussi à avoir des allégeances depuis le lac Tchad. Aujourd'hui, une des plus puissantes branches de l'État islamique, c'est celle du lac Tchad, donc une bonne partie de Boko Haram. Il ne faut pas oublier au Sinaï, où l'État islamique est implanté et donne du fil à retordre à l'armée égyptienne et à l'armée israélienne et à l'armée américaine qui collaborent contre lui.
Donc il va rester une internationale sur...
Comme Al-Qaïda a fait avant lui.
L'Afrique du Nord.
Voilà, comme Al-Qaïda a fait avant lui.
Le nord de l'Afrique noire.
Parce que le djihadisme, c'est très vieux. On démarre au milieu des années 90 avec Ben Laden et aujourd'hui, on est avec deux entités au moins qui sont assez puissantes avec une présence planétaire. Donc, c'est l'État islamique et Al-Qaïda qu'il ne faut pas oublier parce que le combat aussi de la France se fait au Sahel où la France a perdu 24 militaires et là, c'était face à Al-Qaïda et non face à l'État islamique.
Mais l'idée que l'État islamique soit la première organisation djihadiste à avoir atteint son but, c'est-à-dire la restauration du califat, en plus, là, sur un lieu mythique, aux confins de l'Irak et de la Syrie, ça va rester comme un acte fort et ça va...
Écoutez, il y a la perception. Dans la guerre, il y a la perception aussi. Vous savez, Klaus Fiss l'a théorisé il y a très longtemps. Donc, il y a la victoire militaire, il y a la perception de cette victoire. Vous donnez un exemple. Napoléon est bien arrivé à Moscou. Est-ce que c'est perçu comme une victoire ou comme une défaite? Donc ça, c'est important pour les djihadistes, pour schématiser un peu. Ouais. Une bataille de Mossoul qui a duré 9 mois, donc plus longtemps que Stalingrad, Pour eux, ils ont fait le boulot, ils ont construit le mythe. Ils ont résisté à plus de 60 pays, une coalition, etc., etc. Donc les gens qui sont déjà, qui soutiennent déjà cette idéologie, malgré la perte sur le terrain, sans rentrer dans le détail, estiment que l'idée va survivre. Et c'est le cas. Mais pour d'autres, par exemple, pour beaucoup d'Occidentaux qui ont rejoint cet État islamique avec une idée d'y vivre et de faire vivre leur famille, il y en a beaucoup qui aujourd'hui, ils sont arrivés à la conclusion que vivre en Syrie, en Irak, c'est pas une mince affaire. Vivre dans une zone de guerre, c'est pas une mince affaire non plus. Donc, ça va être une sorte de frein pour certains, mais quoi qu'il arrive, encore une fois, quand on part d'un groupuscule, on arrive à un groupe qui donne du fil à retordre à toutes les puissances mondiales, sans exception, on peut imaginer qu'ils vont survivre à cette défaite, surtout qu'ils ont déjà été défaits une fois en Irak, et d'une manière beaucoup plus dure, entre 2008 et 2009.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le nord de la Syrie, dans ces territoires qui devraient, en toute logique, à nouveau être administrés par le régime de Bachar el-Assad?
Écoutez, c'est la guerre dans la guerre, ou les guerres après la guerre. Ça a déjà commencé depuis un moment, du moment où on a su que la défaite militaire de l'État islamique est actée. Tout le monde est entré en compétition pour le nord syrien. On peut imaginer, comme vous le dites, que Assad ne va pas du tout s'asseoir, pour vulgariser, sur toutes les richesses en pétrole et agricoles qu'on oublie souvent dans cette zone-là, qui est le grenier en tout cas de la Syrie, et que les Américains vont essayer quand même, malgré les annonces de retrait, de mettre un terme à l'expansion iranienne qui est inédite aussi aujourd'hui et qui ne reconnaît plus de frontières entre l'Iran jusqu'au Liban. Et les Turcs veulent combattre donc le YPG kurde, ce qui nous pose problème à cause de tous les prisonniers occidentaux qui sont entre les mains du YPG kurde, donc prisonniers djihadistes. Donc je pense qu'on passe dans une autre phase de cette guerre qui n'est pas prête de se terminer.
À vos yeux, Vassil Nasr, les forces occidentales seraient bien inspirées de maintenir une présence dans la région où les Américains ont déjà amorcé un mouvement de recul par rapport à ce qui avait été annoncé par Donald Trump. 200 soldats vont rester, mais si on veut éviter davantage de... les résurgences de l'État islamique, il faut...
Écoutez, pour garder une force militaire sur place, il faut avoir un but politique. Aujourd'hui, le but politique chez les Occidentaux, il est inexistant. C'est-à-dire un but politique stratégique. Juste garder les djihadistes, nos djihadistes, entre guillemets, occidentaux, ce n'est pas un but stratégique. Donc, quand Trump décide qu'il veut partir, c'est parce qu'il ne peut plus rien tirer politiquement de la situation en Syrie. Et si Trump décide de se retirer... La France et la Grande-Bretagne n'ont pas leur mot à dire, parce que même au niveau de la logistique, on n'aura pas les moyens de se maintenir sur zone. Donc tout le monde va suivre, parce que les bonnes décisions n'ont pas été prises à temps, donc avant les Russes, avant 2015. Aujourd'hui, tout le monde est en train de prendre acte de l'échec, en tout cas occidental, en Syrie, et qui, à mon humble avis, aura des conséquences sur les décennies à venir, pas que sur les années à venir.
Les décennies,
parce que la défaite en Syrie, c'est un gain énorme pour la Russie, qui est revenue sur la scène internationale à travers la scène syrienne, et la stabilisation de la zone, et on est très loin de la stabilisation de la zone, en tout cas.
Pour ce qui est de... risque terroriste, dernier point évidemment central. On a vu à quel point le combat mené contre le califat, l'État islamique, le territoire occupé par l'État islamique avait pu affaiblir les capacités logistiques évidemment de cette organisation pour frapper en Europe. Pour l'avenir, Vassil Nasr ?
Écoutez, pour l'avenir, en tout cas, c'est comme on l'a dit, l'appel d'air qu'a conseillé l'État islamique n'a plus lieu d'être à cause de la perte de territoire en Syrie et en Irak. Ça peut être ailleurs, mais c'est moins attrayant, pour dire les choses crûment. Leur capacité de faire des opérations en Europe, ça veut dire de projeter une force, comme ils l'ont fait par rapport aux attentats de Paris, elle est quasi nulle aujourd'hui. Ce qui n'exclut pas qu'ils peuvent le faire d'autres endroits, par exemple depuis la Libye. On a des liens entre les attentats de Manchester et la Libye, par exemple. Mais les vérités djihadistes ou les supporters, j'ai envie de dire, de cette idéologie sont toujours présents. Regardez, après les différentes défaites sur le terrain, ça n'a pas empêché les attentats de Trèbes, les attentats de Strasbourg, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, elle reste. L'idée de ce combat jusqu'à boutiste, etc., continue d'attirer certains.
L'idée reste, on n'en a pas fini. Merci Vassil Nasr de France 24. Je rappelle le livre que vous avez fait paraître il y a 3 ans, État islamique, le fait accompli, chez Plomb.
Europe 1.
Et dans un instant, la Syrie encore, avec une opération hors du commun qui a permis de sortir une jeune Française et son petit garçon des griffes de Daesh. Histoire vraie, portée au cinéma, Exfiltré sort mercredi prochain. Et Charles Berling, qui est à l'affiche, vient nous en parler.
La suite de cette arrivée demain sur Europe 1, c'est avec vous, Patrick Cohen.
Voici à présent un film qui, sous une forme de thriller, nous parle de la Syrie, de Daesh, des djihadistes et des femmes qui se sont fait embarquer avec leurs enfants dans ce piège meurtrier et fanatique, femmes et enfants dont le sort fait débat aujourd'hui puisque la France rechigne à en organiser le rapatriement. Bonjour Charles Berling.
Bonjour.
Ce film sort mercredi prochain, il s'appelle Exfiltré. Il est signé Emmanuel Hamon. Il raconte l'histoire de Faustine, assistante sociale en banlieue parisienne à Romainville, récemment convertie à l'islam. Elle s'est laissée convaincre de rejoindre amis ou connaissances à Raqqa, dans le fief de l'État islamique. Elle emmène son fils de 5 ans, Noah, et abandonne son mari désespéré, Sylvain, qui est infirmier dans votre service de chirurgie, Charles Berling. Vous êtes patrice, donc chirurgien, dont le fils Gabriel fait de l'humanitaire en Turquie et qui se retrouve à organiser la dangereuse entreprise d'exfiltration de Faustine. Qu'avez-vous appris de ce film qui est basé sur une histoire vraie?
J'ai appris beaucoup de choses extrêmement passionnantes qui font que cette réalité qui est souvent un petit peu lointaine pour nous ici en France, ou évidemment qui nous marque tous au fer rouge parce que c'est le terrorisme, mais j'ai appris à voir la réalité telle qu'elle est. J'ai appris que au fond cette femme va être exfiltrée par des circuits parallèles mais pas par les circuits officiels, que celui qui joue mon fils, Finnegan Oldfield, il est arrivé en Syrie en 2010, donc il a vécu auprès de Syriens, il avait des amis là-bas qui ont disparu, donc il fait partie d'une ONG, et c'est ces circuits-là, au fond, qui vont faire que les choses peuvent avancer. Et l'histoire de Faustine aussi est remarquable. Les djihadistes qu'elle va rejoindre à Raqqa, elle les connaissait déjà en banlieue parisienne, n'est-ce pas? Donc on peut mieux, grâce à ce film, je crois, qui vraiment est basé sur la réalité, on peut mieux comprendre, au fond, ce qui fabrique le terrorisme. Contrairement à Manuel Valls qui disait « comprendre, c'est excuser ». Non, comprendre, c'est pouvoir mieux se battre contre ça et ne pas se laisser envahir par le fantasme et la peur.
C'est l'histoire de Faustine, on l'a dit, qui s'est laissée embarquer par des criminels fanatiques. Mais aussi, c'est l'histoire d'un enfant de 5 ans, innocent, et dont le regard vous serre le cœur. Vous n'avez pas joué avec lui, Charles Berling, mais vous l'avez vu, cet enfant, qu'est-ce qui vous inspire?
Je fais la partie France, n'est-ce pas, de ces gens qui sont comme nous, là, comme on est en train de parler, c'est-à-dire, on n'est pas directement sur le terrain, mais on est impliqué.
Mais cet enfant, on le voit subir le sort des enfants de Daesh, entraîné à manier une Kalachnikov, habitué à regarder des vidéos barbares décapitation de peluche.
Bien sûr, cet enfant est immédiatement récupéré. C'est-à-dire que Faustine, quand elle va arriver là-bas avec son enfant, elle va se rendre compte très vite que les promesses qu'on lui a faites et que les illusions, l'idéalisme dont elle avait fait preuve pour aller là-bas, croyant faire le bien de l'humanité, eh bien que la réalité était tout autre. Et le pire, c'est évidemment cet enfant qui est au milieu de tout ça, et c'est ce qui va aussi pousser dans la réalité le père à agir comme il le fait. Évidemment, ça fait un beau thriller, le film. Il faut savoir que cette femme, dans la réalité, est revenue. C'est une des rares, parce qu'en général, les femmes qui partent là-bas dans ces conditions ne reviennent jamais.
Les femmes ne reviennent pas, c'est quelqu'un de la...
Oui.
Des GSI, des services secrets français qui le dit.
C'est pour ça qu'on voit dans le film... Enfin,
à quel point c'est exceptionnel. Ouais.
C'est ça qui donne, je crois, son aspect haletant au film.
Vous êtes donc le père un peu dépassé par l'expérience et l'audace de son fils, lequel parle arabe, connaît parfaitement la région, les forces en présence et envisage la possibilité donc de monter une opération en Syrie avec des résistants anti-Bachar pour récupérer Faustine des mains de l'État islamique. Votre fils est donc joué, vous l'avez dit, par Finnegan Oldfield. Et dans cette scène, Charles Berling, vous essayez de comprendre comment ça peut marcher.
Attends, vous allez appeler les Kurdes, vous allez leur dire « Salut, j'ai une nana, un gamin à sortir de Raqqa ».
Non, pas les Kurdes, rien à voir, des mecs de l'ASL, l'armée syrienne libre, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de reconnaissance.
De reconnaissance, de qui?
De la France, c'est hyper important, vraiment.
Attends, c'est délirant, Adnan, dis-lui qu'il déconne, là.
Mais non, il connaît bien les Katibas, c'est peut-être possible.
Et la DGSE?
Quoi, la DGSE?
Il pourrait pas la monter, l'exfiltration?
Et ça demande des trop gros moyens, ils le feront jamais pour elle.
Comment tu sais ça?
Mais toi aussi, tu le sais, tu leur as demandé, ils veulent pas faire revenir les gens, point.
Ils vont savoir ce que tu fais, si tu le fais, je veux dire.
Bah oui, je pense, oui. Ils surveillent tout, donc oui.
Donc ils pourraient t'en empêcher.
Et comment?
courriel. C'est toi la DGSE?
Arrête.
T'es quoi? T'es qui? Tu fais quoi en Turquie?
Mais écoute, papa, écoute, tu peux me faire confiance, d'accord? Je sais ce que je fais, ok?
Tu te rends compte que si ça merde, tu as deux morts sur les bras?
Bon, écoute-moi, tu veux nous aider? Bah, si tu veux nous aider, il faudra que tu fasses ce qu'on te dit. C'est possible ou pas? Tu peux?
Ok. Extrait des Infiltrés d'Emmanuel Hamon avec Charles Berling et Finnegan Oldfield. Père et fils, et le fils qui demande au père de lui faire confiance. Hein.
Oui, parce qu'on entend bien d'ailleurs, enfin, à travers cette scène, à quel point toute confiance est compliquée. Dans l'histoire, une femme qui dit « je veux absolument rentrer », ça peut être un double jeu qu'elle mène. Donc tout le monde se méfie de tout le monde.
Il y a aussi Zoan Arlo qui joue
absolument
l'infirmier dont la femme a disparu en Syrie. Et puis aussi un jeune homme qui s'appelle Kassem Roja. Il joue Adnan, qu'on a entendu rapidement. Oui. C'est un Syrien de 24 ans qui s'est lui-même échappé de Raqqa il y a 3 ans. Vous le saviez tournant Vous en avez parlé avec lui, Charles Berling?
Oui, ça fait partie des choses totalement passionnantes de ce tournage. D'abord aussi d'avoir rencontré les certains protagonistes de la véritable histoire. Mais alors, lui, il est syrien, il est arrivé en 2015. Il a très très rapidement appris le français. C'est-à-dire qu'il y a une faculté d'adaptation magnifique. Et il se retrouve dans ce film... Et c'est vrai que c'est passionnant de discuter avec lui et de voir à quel point ces Syriens, ces hommes et ces femmes eh bien, vivent à la fois un cauchemar, mais ils ont tout le temps le sourire parce qu'ils ont fui justement ce cauchemar.
Et qui se sont battus pour
Oui, et d'ailleurs, il est très bon, comme on le voit dans le film. C'est-à-dire il a une faculté d'adaptation aussi avec l'art dramatique qui est tout à fait phénoménale.
Exfiltré, le film d'Emmanuel Hamon sort mercredi prochain au cinéma. Merci beaucoup Charles Berling d'être venu nous en parler ce matin. Merci.
Europe 1.
Nous croyons être libres et nous pensons que ces libertés sont acquises. Pas du tout, nous dit la philosophe Monique Cantos-Perber qui, dans un nouveau livre, veut défendre les libertés politiques grignotées par le libéralisme économique.
Europe 1. C'est arrivé demain.
Chaque dimanche de 9h à 10h sur Europe 1, vous êtes avec Patrick Cohen, vous écoutez C'est arrivé demain sur Europe 1.
Monique Cantos-Perber, bonjour.
Bonjour.
Philosophe, directrice de recherche au CNRS, vous avez dirigé Normal Sup, beaucoup travaillé sur les concepts de liberté et de libéralisme, et vous publiez chez Robert Laffont « La fin des libertés » ou « Comment refonder le libéralisme ». Pour résumer, vous êtes une libérale inquiète par la tournure que prend le libéralisme, c'est-à-dire un libéralisme économique de moins en moins soucieux des libertés individuelles et politiques. En quoi les voyez-vous menacées, ces libertés individuelles et politiques?
Les libertés individuelles et politiques me paraissent menacées de multiples façons. Regardez ce qu'est l'expérience de notre vie quotidienne. Nous sommes de plus en plus amenés à adopter des comportements standardisés. Il y a une forme de bien-pensance qui s'installe progressivement dans nos sociétés et qui fait que la parole, par exemple la parole des humoristes, n'est plus aussi libre qu'elle l'a été. Il y a également des transformations dans la manière dont les personnes peuvent accéder ou à l'espace public, au bien public, circuler, se sentir mobile. Tout ça fait qu'on arrive à ce paradoxe que formellement nous avons de plus en plus de liberté. On peut se marier entre hommes et femmes, on peut avoir un enfant même si on est stérile, etc. Mais on est enfermé dans une sorte de catégorisation des comportements et de limitation surtout de l'expression de ce à quoi aspirent les personnes.
À cela, on vous répond généralement, c'est pour mieux vous protéger, hein, c'est l'arbitrage entre bien public et liberté, intérêt privé, une atteinte, on peut atteindre à votre vie privée en échange d'une meilleure protection ou d'une surveillance qui assure la protection de tous, c'est
pour
ça
mieux vous pour mieux vous protéger, pour mieux vous administrer, faire en sorte que vous viviez dans une société plus efficace. Bien sûr, les justifications sont très nombreuses, mais à un moment, la nécessité de définir l'arbitrage et les termes de l'arbitrage se posent. Bien sûr, on peut toujours imaginer une société parfaitement organisée, juste, efficace économiquement et ce qu'on veut. Il reste que si dans cette société, on n'est plus libre, on n'a plus le sentiment qui était si fortement ancré dans toute la tradition libérale que sur lui-même, sur ses pensées et sur ses actions, chaque homme possède un pouvoir souverain sur lequel nul ne peut enfreindre. Si ce sentiment n'est plus là, à quoi bon ces sociétés si bien organisées?
Est-ce que la première des libertés, Monique Cantos-Perber, n'est pas de disposer de son destin, ce qu'on appelle parfois, même si vous n'utilisez pas l'expression dans votre livre, l'égalité des chances?
fondamentalement. J'en suis absolument convaincue. C'est la première forme de liberté, avoir un avenir. C'est-à-dire avoir la possibilité d'utiliser les ressources de sa personne, se positionner en agent autonome et utiliser les possibilités qu'offre le monde pour se développer et se perfectionner. Ça, c'est véritablement une conviction fondamentale. Mais encore faut-il qu'on puisse avoir accès à ces éléments qui permettent de se développer, à commencer par l'éducation, à commencer par un minimum d'assurance vitale. Et c'est pour ça, dans ce livre, vous l'avez remarqué, je défends une forme de revenu universel, oui. Parce qu'à mon sens, c'est la seule chose qui puisse donner aux personnes ce sentiment d'être responsable de leur vie, qui est la condition sine qua non pour qu'elles puissent se réinsérer
vous
dans le marché du travail.
Vous faites partie des rares libéraux à défendre l'idée d'un revenu universel.
Mais je reprends aussi un argument de Milton Friedman qui dit « Mais puisque de toute façon nous avons une obligation sociale d'aider les personnes démunies, autant les aider de façon à les rendre libres, au lieu de les aider en les enfermant dans un ensemble de conditions, à condition que vous fassiez ceci, à condition que vous fassiez cela, qui les infantilise et qui les prive d'une certaine manière de toutes les ressources intérieures qui peuvent leur permettre d'être de nouveau des acteurs sociaux. »
La dimension économique, elle est évidemment essentielle. Comment se sentir libre, écrivez-vous, quand on vit sous le seuil de pauvreté ou quand on dispose de 1700 euros par mois pour une famille de deux adultes et deux enfants? Je crois que c'est le revenu moyen en France exactement. Et vous citez évidemment le Carlo Rosselli, le théoricien d'un socialisme libéral. L'enjeu d'une société libre, c'est quand la liberté arrive dans la vie des plus pauvres.
C'est une formule qui ne m'a jamais quittée depuis 20 ans.
Idée importante.
Écrit un livre sur le socialisme libéral. Ça me paraît tellement important, faire en sorte que, quelle que soit la condition d'existence dans laquelle on est, sociale, culturelle, on ait le sentiment que quelque chose est possible, qu'un avenir est devant soi. Vous parliez d'égalité des chances. Moi, j'aimerais parler plutôt d'égalité de destin, d'égalité de possibilités de réalisation. Ensuite, évidemment, chacun joue ses cartes avec ses talents, des conditions particulières. Mais ça suppose une société fluide et ça suppose une société qui s'attache au fait de donner des éléments de développement personnel aux individus, d'empowerment, comme on dit en anglais aujourd'hui.
Alors, retour aux libertés politiques. Vous écrivez à plusieurs reprises, mais qui se soucie aujourd'hui des libertés politiques? Qui les défend? J'ai envie de vous répondre, les Gilets jaunes, depuis 3 mois. Est-ce que l'aspiration à prendre plus directement le contrôle des affaires publiques, est-ce que cette aspiration à davantage de démocratie ne participe pas au mouvement de reconquête que vous souhaitez?
Mais c'est une remarque très juste, parce que ce que a montré le mouvement des Gilets jaunes, c'est en tout cas l'insatisfaction. Le fait, ça a été une sorte d'expérience révélatrice. Quelque chose manque. Ça ne va pas. Alors, il y a bien sûr la fiscalité écologique, les services publics, etc. Mais plus fondamentalement, il y a un sentiment de dépossession, de ne plus avoir de voix dans les affaires publiques, de ne plus pouvoir exprimer un certain nombre de choses. Et là, on arrive au cœur de ce qui a été à l'origine du libéralisme, la possibilité pour les citoyens au sein d'une société de se mettre en position d'auteur, de se mettre en position d'initiateur de la chose publique et de l'espace politique, faire entendre sa voix. Alors c'est non seulement évidemment contrôler le pouvoir d'État, ça c'était à l'origine du libéralisme, mais aussi faire entendre la pluralité de la société, faire entendre toute la diversité des conditions d'existence. Les Gilets jaunes, avec leur rond-point, avec leur défilé, ont essayé de faire cela d'une certaine manière, trouver une voie.
Bon, et alors on y répond comment, Monique Antos-Berber?
Le problème, pour moi qui suis une libérale, le problème c'est que la voie ne suffit pas. Il faut qu'elle s'inscrive dans un espace social avec un véritable pluralisme politique. Mais ça ne peut pas, nous sommes dans une démocratie représentative avec un parlement. Ce Parlement devrait être le lieu du pluralisme politique où les idées s'affrontent, les conceptions politiques s'affrontent. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas en ce moment. Et je crois que l'exercice de la liberté politique, la possibilité de s'engager en tant que citoyen, suppose quand même une diversité d'options entre lesquelles on réfléchit. L'appauvrissement de ce qui est devenu le pluralisme politique et la diversité des options politiques n'est pas une condition très favorable. Donc moi, je réprouve totalement les manifestations violentes de ce mouvement, ce qu'il exprime peut être extrêmement intéressant de ce point de vue-là. La volonté de reprendre en main les affaires publiques est quelque chose d'essentiel. Maintenant, il faut trouver les bons relais, les bons canaux d'expression, remettre au cœur quand même la délibération et l'argumentation, parce qu'on ne peut pas simplement dire ce qui ne va pas et crier. Il faut à un moment réfléchir, raisonner, pondérer. C'est en cela qu'on devient un citoyen responsable. Et je crois que le Parlement, les corps intermédiaires ont un rôle fondamental à jouer dans cette... Dans cette résolution de la crise. Y arriverons-nous ? Je ne sais pas.
Une autre image d'actualité que je voulais vous soumettre dans ce constat pessimiste globalement que vous faites, est-ce que cette profonde aspiration à la démocratie et aux libertés politiques qui se manifestent en ce moment en Algérie, est-ce que ça n'est pas quelque chose d'incroyablement positif et source d'espoir ? Parce qu'on parle là d'un peuple et d'une jeunesse qui n'a jamais connu de véritable liberté politique ou qui l'a connue par... parce qu'on lui a raconté ou parce qu'il était inscrit dans les livres d'histoire ou sur les réseaux sociaux en regardant les autres pays.
Mais ce sont des événements qui sont bouleversants, qui redonnent l'espoir, parce que quoi qu'on fasse, aussi verrouillé que je sois les choses, même si tout est fait pour endormir le peuple, lui dire voilà, ce sera comme ça, et puis de toute façon, on s'occupe de vous, soyez tranquilles, soyez satisfaits, faites vos affaires, etc. On s'occupe de tout. Malgré tout, il reste une sorte d'aspiration fondamentale à se faire entendre, à exiger, à faire de la chose publique l'œuvre de chaque citoyen, à se reconnaître dans ce qui est l'organisation publique. Vous avez parlé de l'Algérie, mais pour ma génération, ça a été aussi les premières manifestations en Allemagne de l'Est, par exemple. Et la volonté de faire entendre une voix de citoyen contre ce système de verrouillage complet qui était le communisme. Chaque fois que ça arrive, quand c'est arrivé avec le printemps arabe, c'est arrivé en Ukraine, malheureusement ensuite les évolutions ne sont pas toujours celles qu'on souhaiterait. On a le sentiment de quelque chose de plus fort et qui d'une certaine façon correspond à une des convictions que j'avais. On ne peut pas ne pas s'empêcher de poser la question mais à quoi ça rime tout ça ? Mais est-ce que je suis libre ? Mais quel rôle je joue moi dans cette organisation politique ?
Oui, et c'est des questions qui ne sont pas forcément toujours posées parce que on est victime aussi de l'esprit du temps, l'esprit dominant qui est comment dire plutôt individualiste et consumériste, davantage soucieux comme vous l'écrivez de ses bonheurs et intérêts privés et de plus en plus indifférent au débat public et à la sphère politique. Ça c'est une tendance lourde dans les sociétés occidentales, Monique Cantos-Berber, vous le sentez bien.
Je le crains en effet. Cette dépolitisation profonde de nos sociétés, c'est malheureusement ouvrir la voie à toutes sortes de gouvernements autoritaires. Le meilleur antidote contre le populisme, à mes yeux, ce n'est pas seulement l'efficacité économique, la cohésion sociale, une politique de coexistence, mais c'est aussi cette participation active des citoyens, cet engagement de chacun pour défendre ses libertés et parmi lesquelles la liberté politique. Il va de soi que qui renonce à cela, qui se dit eh bien, que d'autres s'en occupent, ouvre d'une certaine manière la possibilité, en effet, que des gouvernements technocratiques ou alors soucieux d'efficacité évoluent peu à peu vers des formes de gouvernementalité qui sont assez inquiétantes.
Merci Monique Cantos-Berber. La fin des libertés ou comment refonder le libéralisme. Votre livre vient de paraître chez Robert Laffont. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons partir à la découverte de lieux secrets et abandonnés en France et en Europe, des expériences d'exploration urbaine, Urbex, menées par un passionné Timothy Hanem, notre invité dans un instant.
C'est arrivé demain la suite, vous écoutez Patrick Cohen sur Europe 1.
Il n'y a pas de château hanté, en tout cas on n'a pas vu de fantôme, mais on n'en est pas loin. Notre invité à présent a toujours aimé se faire peur, il continue en explorant des lieux abandonnés, complètement fermés au regard, au public, maisons, usines, hôpital, sanatorium, parc de loisirs, cela donne des récits et des clichés captivants. Bonjour Timothy Hanem.
Bonjour.
Ça fait des années que vous jouez les clandestins ou les intrus, d'abord pour le site que vous avez créé, Glockland, comme Glock, et puis pour deux livres parus chez Artaud, Urbex, le deuxième vient de sortir avec des endroits situés cette fois hors de France. D'abord le goût, votre goût de ces lieux abandonnés, c'est d'abord la passion des films d'aventure et d'épouvante, c'est comme ça que c'est venu?
Ouais, c'est venu comme ça. Quand j'étais petit, en voyant des films comme Les Goonies ou Stand By Me, j'avais envie de faire la même chose, tout simplement.
Mais d'ailleurs, beaucoup de ces endroits feraient d'extraordinaires décors de films. J'imagine que vous avez été sollicité ces dernières années, non ?
Oui, je reçois souvent des mails de personnes qui travaillent dans le cinéma et qui veulent savoir où se situe tel endroit pour faire un film ou un clip. Ça arrive souvent, oui.
Ouais, et parfois, ça s'est produit, ça s'est fait ?
Moi, en fait, je ne donne pas les adresses des lieux, puisqu'il ne faut pas que ce soit cassé ou vandalisé ou trop visité. Mais après, comme d'autres personnes les donnent, ou de toute façon, en cherchant bien, on arrive à les trouver, de quelques films et séries se déroulent dans ces lieux au fil des années.
Oui, et puis il y a des lieux un peu emblématiques. Et d'ailleurs, à propos de cinéma, dans le premier urbex que vous avez publié, on y voit ce château qui est le château Rothschild à Boulogne-Billancourt, oui. Qui a servi de cadre, si je me souviens bien, pour le film de Marguerite Duras.
Voilà, elle a fait deux films là-bas. Ouais. India Song et Son nom de Venise dans Calcutta, qui est le deuxième, qui est à peu près le même film, mais juste la bande audio. Avec, par contre, l'image change, c'est que des plans du château à l'intérieur, abandonné dans les années 70. Ouais. C'est très particulier.
Et c'est très particulier. Aujourd'hui, c'est une ruine incroyable aux portes de Paris. Est-ce que parfois le fait de parler de ces lieux a changé leur destin, a fait que des promoteurs ou des collectivités locales ont repris en main les choses pour transformer cela?
Oui, je pense qu'à force d'en parler, par exemple pour le château de la Motte Chandonnier a été racheté en décembre 2017. C'est un lieu que j'avais exploré, que je comptais mettre dans le deuxième livre.
Oui.
Et je l'avais exploré quand il était abandonné, en fait, mais un an plus tard, il a été racheté et aujourd'hui, il est en cours de réhabilitation. Donc j'imagine que c'est pas, pour certains lieux, c'est pas trop mal qu'il y ait une médiatisation quand ils sont plutôt jolis, parce que ça peut faire bouger un peu les choses. Et d'ailleurs, le château Rothschild, ça fait, je crois, un an et demi qu'il est en réhabilitation.
Il est en réhabilitation, oui. Donc voilà. Alors, ce sont des lieux hors du temps. Il y a une poésie de ces endroits abandonnés, envahis souvent par la végétation, au milieu de nulle part. Donc, je disais, des sanatoriums, parcs aquatiques, le goût du danger aussi, le fait de pénétrer dans ces endroits. Donc, je laisse le lecteur admirer les photos, regarder votre site. Mais il y a l'idée du risque. Et alors, vous expliquez que ce risque, il est plus grand encore à l'étranger qu'en France pour ces lieux que vous allez explorer en Europe.
Oui, parce qu'en fait, moi, je fais ça depuis une quinzaine, 15-20 ans en France et je sais à peu près ce qui m'arrive si je tombe sur un vigile ou si des voisins me voient rentrer et appellent la police. Je m'en sors avec un contrôle d'identité et ça va généralement pas plus loin.
Oui.
Donc, mais par contre, en Europe, j'avais aucune idée de comment ça se passait. Il paraît que, enfin, moi, on m'a parlé de pays comme l'Espagne où, par exemple, il y a des amendes concernant le fait de visiter ces endroits-là.
Oui.
Par chance, j'en ai pas eu. En Allemagne aussi, il paraît que c'était un peu tendu. Donc, c'est un peu comment réagir face aux forces de l'ordre en dehors de son pays, quoi.
Oui, il faut lire vos récits, évidemment. Ce sont vraiment des récits, des croquis de journées passées sur place ou de quelques heures passées sur place. Il y a ce parc aquatique près de Madrid. Il y a un écriteau « Attention, chien en liberté ». Et donc, vous passez toute votre visite à vous dire que vous pouvez vous faire attaquer par des chiens méchants.
Ouais.
Ça n'a pas été le cas.
Heureusement, ça n'a pas été le cas. En fait, très souvent, il y a beaucoup de parts de dissuasion dans les panneaux. Il peut y avoir des panneaux « sites sous surveillance vidéo ». En fait, non. Mais par contre, souvent, oui. Et des panneaux alarmes, ce genre de choses. Donc moi, comme j'ai fait beaucoup de trajets pour aller visiter ces lieux, je me dis, bon, bah, si je vois un chien, au pire, j'essaierai de me sauver en courant, mais au moins, je tente pour ne pas avoir de regrets. Et coup de chance, là, ça a payé. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose que j'incite pas les gens à faire la même chose non plus. Mmh. Moi, mon but, c'est de faire rêver les gens en montrant les photos, oui, de ces lieux. Je dis comment je suis rentré, ce qui s'est passé. Mais oui, mon but, ce n'est pas de dire, vous voyez un panneau chien en liberté, allez-y quand même, ça se trouve, il n'y en a pas.
Non,
pas du tout.
Non, non. Il y a aussi des endroits qui font plus peur que d'autres. Par exemple, dans les ruines d'un asile, d'un hôpital psychiatrique.
Alors, il y en a plusieurs, il faut savoir.
Il y en a plusieurs. Alors, c'est dans celui sur l'Europe. Alors, attendez, je n'ai pas noté l'endroit.
Alors, c'était en Suède, en Italie.
En Italie.
Oui, alors celui-là, c'est un immense site avec 20-30 bâtiments. Et les deux tiers sont à l'abandon, mais vraiment complètement abandonnés. Donc, c'était très particulier à visiter avec les grilles qu'on voit au balcon de plusieurs bâtiments. Mais il y a un balcon et en plus, il y a un grillage pour empêcher que les patients se suicident sur un coup de dépression ou de maladie. Et en me renseignant après, j'ai appris aussi qu'il y avait eu un massacre sur place à la fin de la guerre, quand des communistes ont massacré sur place des miliciens fascistes à la fin de la guerre. Donc c'est très particulier à explorer. Ouais.
Alors ça, c'est en Espagne.
Non, c'était en Italie.
Ah bon, d'accord.
Oui, c'est en Italie.
Ah bon, parce qu'il y a aussi un lieu d'un massacre à la fin de la guerre qui se trouve.
En Espagne, c'est possible.
En Espagne, me semble-t-il, ai-je bien lu. Il y a aussi, près de Milan, vous visitez un palais, un château. Évidemment, le plancher est vermoulu, mais les murs, la décoration, la cheminée très imposante, tout est intact. Ça donne, oui, des clichés absolument fascinants. Il y a des endroits qui sont très abîmés, en ruine, et d'autres qui ont été miraculeusement préservé en quelque sorte.
C'est ça, c'est à chaque fois de la chance, parce que quand on va visiter un lieu, on a vu des photos avant, mais on ne sait jamais vraiment trop quand elles ont été prises. et on ne sait pas si sur place on pourra déjà, un, rentrer, et deux, faire des photos intéressantes, si le lieu est toujours aussi préservé ou si c'est pas complètement tagué. Et c'est vrai que pour ce château-là, le château des Soupirs, c'était incroyable de visiter cet endroit qui est visible au bord de la route pour tout le monde. D'ailleurs, on avait une voiture s'arrêter, faire le tour, juste pour voir. Et de pouvoir y rentrer aussi facilement et faire des photos aussi belles, c'est vraiment de la chance. Ouais.
Vous nous emmenez aussi dans les ruines d'un centre de commandement de la Wehrmacht en Allemagne, avec un vaste réseau de bunkers souterrains. C'est un endroit fascinant, chargé d'histoire, mais quelque chose vous intrigue. C'est très propre, il n'y a pas un papier qui traîne, tout ça est dégagé. Et vous découvrez finalement, après plusieurs heures de visite, que c'est un endroit en partie ouvert au public. Vous êtes rentré clandestinement dans un endroit qui, en fait, était accessible au grand public.
Voilà, en fait, c'est tout simple, mais ne sachant pas lire l'allemand, je ne m'étais pas trop renseigné sur l'endroit. Et je ne savais pas du tout qu'en fait, il était ouvert, on va dire, une ou deux fois par an pour des visites spéciales guidées. Et du coup, avec mes amis, on est venu sur place et on l'a exploré. En fait, on a profité d'un trou dans un grillage quelque part, on est rentré, on l'a visité un jour où c'était fermé au public. Et du coup, on a pu bien plus le visiter qu'en temps normal, puisque normalement, il y a un petit chemin balisé, tracé. Nous, on a pu vraiment faire tout ce qu'on voulait. Donc, c'était très intéressant aussi.
Il y a un endroit aussi qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez pénétré dans la maison qui a été celle d'un mage en Moselle, près de la frontière luxembourgeoise, qui a aussi été le lieu d'un fait divers retentissant. C'est la maison du on peut le citer, je crois, c'est la maison du mage. Non,
c'est mieux de ne pas dire. Non, parce que la maison est encore en très bon état, il y a des très belles peintures à l'intérieur.
Il y a des peintures.
Ah oui, c'est fascinant, mais justement, le fait de ne pas le dire, ça préserve aussi l'endroit.
Bon, alors on va pas le dire, mais ouais. c'était un gourou dont deux enfants ont disparu mystérieusement. Il a bénéficié d'un non-lieu, mais il a emporté son secret dans la tombe en 99. Timothy Hanem, Urbex, Europe, 35 lieux secrets et abandonnés en France et en Europe. C'est absolument fascinant, c'est chez Artaud. Et donc, il y a le premier tome Urbex en France, toujours chez Artaud. C'est à découvrir. Merci d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Ainsi s'achève cette arrivée demain, émission préparée par Marina Prouzès, réalisée par Sophie Mallier.